OK, on est de retour. Il est 14h26. Deux sujets avec notre chroniqueur automobile, Marc Bouchard, que je vais aller rejoindre de ce pas. Salut, Marc.
Salut, mon cher.
Bon, Marc, on va commencer avec le Chevrolet Blazer. Ça me tente de commencer avec ça parce qu'on dirait que c'est un petit peu un mal-aimé là, dans la gamme Chevrolet. Est-ce que je me trompe?
En fait, c'est que l'ancien Blazer était un espèce de véhicule un peu passe-partout, un utilitaire sport un peu rough, là, un peu tough. Alors que le nouveau Blazer, qui sort à peine, c'est plutôt un véhicule qui est... qu'on a voulu plus sportif. Quand tu regardes la partie avant, on a copié littéralement la grille de la Camaro. Quand tu regardes à l'intérieur, on a les buses de ventilation rondes comme dans la Camaro. On veut vraiment lui donner une personnalité sportive.
OK. Fait que ça veut dire qu'on relance le modèle, dans le fond.
Oui, on relance le modèle dans une toute autre vision. On veut vraiment viser d'autres mondes. Et c'est de ça dont je voulais te parler, parce que je trouve ça assez amusant de voir le constat que GM a fait. C'est que, bon, oui, ils ont mis la personnalité, ils ont mis le design, il est super beau. Je l'admets, là. Moi, je le trouve très joli. Sauf qu'on nous dit qu'on vise les gens, disons, 45 ans, 50 ans et plus, des gens actifs qui n'ont plus d'enfants à la maison, qui ont un salaire moyen familial de 125-130 000 $ par année, et on a bourré le véhicule de technologie.
OK.
Mais quand je dis bourré, là, c'est vraiment bourré. Puis je ne te parle pas uniquement de technologie de sécurité comme on est habitué, là, c'est l'aide au maintien en voie ou le régulateur de vitesse intelligent qui permet de garder la même distance. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais on a mis à l'intérieur des technologies. Par exemple, tu peux identifier ton propre profil avec ta clé. Alors, toi, tu as ta clé, ta femme a la clé. Quand tu rentres, le camion va quasiment dire « Bonjour, Rock », va mettre la température à ton niveau, va mettre le poste de radio où tu le voulais, avec le volume que tu voulais, va... Tout ça va s'adapter pour toi. Ton siège va se placer pour toi, bien entendu. Et si tu avais rentré une destination dans le GPS au préalable, ben elle va revenir et tu pourras donc repartir avec ça.
OK.
Ajoute à ça un miroir qui n'est pas un miroir, le rétroviseur central, là, qui n'est pas un miroir, mais qui est vraiment un espèce de caméra qui est logée à l'arrière et avec laquelle tu peux zoomer. Donc, ce que tu vois, c'est beaucoup plus large. C'est littéralement une projection vidéo que tu as dans le rétroviseur, plutôt que d'avoir un vrai miroir.
Eh bien, tu n'as pas de miroir.
T'en as un si tu veux, mais tu as l'option caméra.
Eh ben.
Et l'avantage de ça, évidemment, c'est que si tu as mis du stock dans ta valise jusqu'au plafond, ben, ta caméra, elle est à l'extérieur. Fait que tu vas voir quand même en arrière.
OK.
Il n'y a pas de problème. Tu as toutes les caméras 360 et tout. Le point, c'est que ça fait un véhicule dont le prix de base est de 33 000 $ mais que dans les faits, celui que moi j'ai essayé, pour lequel je suis encore au volant actuellement, il vaut 48 000 $ Et honnêtement, quand ils ont fait la démonstration un peu plus tôt, parce que je suis actuellement au lancement canadien, là, et quand ils ont fait la démonstration un peu plus tôt, la moitié des journalistes qui étaient là, qui sont des gens fort sympathiques, mais qui sont même un petit peu plus âgés que moi, se regardaient en disant « Oui, mais il est où le livre d'instruction? On ne sera jamais capable de manipuler autant de technologies à l'intérieur d'un véhicule. »
Ah, regarde donc.
Puis là, c'est ça la particularité.
Ben oui, puis là, 48 000, tu tombes dans une catégorie, les compétiteurs, c'est sérieux, là?
Quand tu... Oui, là, tu commences à parler quasiment des véhicules de luxe, là. Et tu peux aller plus haut que ça. La version première, qui est la version la plus haut de gamme, avec tout l'équipement disponible, je te dirais, en option, ça vaut 60 000 $
Hey boy! Fait que là, t'es dans le presque le Q5, là.
Exactement. Et là, t'es vraiment dans des véhicules de luxe, t'es dans des Lexus, t'es dans des Audi, t'es dans des BMW. Alors, tu sais, le X3 chez BMW est à peu près dans cette gamme-là. Donc, on est vraiment dans un drôle de créneau. Écoute, autant j'aime le véhicule jusqu'à date, là, je suis très satisfait de la conduite. Bon moteur, 308 chevaux, ça va bien, ça se comporte bien. Mais autant je suis étonné que GM ait décidé de prendre ce virage-là okay. De façon aussi intense et avec une facture qui va avec.
Un 4x4, bien sûr?
Oui, ben en fait, oui, sur les versions les plus élevées. Tu prends la version de base qui arrive avec le moteur 4 cylindres, tu ne peux pas avoir le rouage intégral. C'est pour ça que je te dis, tu sais, des versions de base, honnêtement, il n'y en aura pas beaucoup. La version qu'on essaie, nous, actuellement, on s'est fait dire par les gens de GM, ça va être celle qui va se vendre au volume.
Qui est un 4x4?
Qui est un 4x4 à 45 000, 45 000
$ OK, je comprends. Bon, hey, tu voulais aussi nous parler que les gens aux États-Unis pensent que, en fait, pas mal de gens, 40% des gens des États-Unis pensent que les autos autonomes vont arriver avant les voitures électriques?
En fait, je me suis même trompé, c'est 60%.
60%?
Oui, et c'est, en fait, c'est le AAA, là, l'équivalent américain du CAA,
ouais,
qui a fait une étude et qui a posé des questions aux gens en disant, est-ce que vous êtes prêts à aller chercher une voiture électrique? Alors, il y a moins de 40% de la population qui a dit oui, on est prêt. Et les autres 60% ont dit non parce qu'on n'y croit pas. Mais on pense que les voitures autonomes vont être là avant les voitures électriques de façon abondante sur les routes.
OK.
Et la raison de ça, c'est que les autres disent, d'une part, les voitures électriques actuellement, il y en a à peu près 200 000 aux États-Unis, ce qui est très peu compte tenu du volume annuel de véhicules. Et dans les autos à essence, les autos ordinaires, ils ont déjà beaucoup de systèmes qui les aident à conduire. C'est l'aide au maintien en voie, le régulateur de vitesse intelligent, toutes des caractéristiques qui sont maintenant là, monnaie courante sur la plupart des véhicules un peu plus haut de gamme. Là.
Ouais.
Ben, les gens sont persuadés que ça va les amener à avoir une voiture autonome au cours des... Écoute, ils mettent même pas 10 ans, là. 7 à 8 ans. Au cours des 7 à 8 prochaines années, selon 60% des Américains, plus de la majorité des voitures neuves vont être des voitures autonomes.
Quand on pose la question, est-ce que tu penses que la plupart des gens qui y répondent comprennent tous la même chose de ce que ça veut dire une voiture autonome? Parce que, tu sais, à la limite, là, tout ce que tu expliques, des appareils pour rester dans la voie, les régulateurs intelligents, etc., à la limite, je pourrais dire que déjà, on est dans une voiture intelligente, une voiture autonome. À la limite, je pourrais dire ça. Mais quand on pose la question, est-ce que tout le monde qui y répond à la question, ils comprennent la même chose?
Ben, en fait, je pense que c'est là le gros problème. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que les voitures électriques ont autant de misère à percer le marché parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne comprennent pas ces nouvelles technologies-là. Et si on fait le lien avec mon truc du blazer en partant, tu verras qu'on est exactement dans le même problème. Donc, c'est des gens qui n'ont pas compris ce principe-là, mais qui, par exemple, vont s'acheter des voitures au cours des prochaines années. Alors, honnêtement, moi, j'ai été très surpris parce que dans ma tête, une voiture autonome, ça va être de toute façon électrique. Donc, l'un va avec l'autre.
Voilà.
Mais honnêtement, pour que 60% des gens considèrent ça, il y a vraiment un problème de compréhension. Il va falloir que quelqu'un explique à un moment donné au monde comment ça fonctionne.
D'ailleurs, j'en profite, je vais te poser la question. Quand on dit au Québec, là, un véhicule électrique, ça inclut évidemment un véhicule qu'on branche puis qui a juste une batterie, il n'y a pas d'essence, oui. Ça, c'est un véhicule électrique. Un véhicule hybride, je connais pas beaucoup ça, mais un véhicule hybride, est-ce que c'est un véhicule électrique?
Les véhicules électriques hybrides, ce sont des hybrides branchables. Prends la Toyota Prius Prime, la Chrysler Pacifica, par exemple. Ce sont des véhicules que tu branches, avec lesquels tu es capable de faire une certaine distance, mettons de 40 à 60 km, des fois plus, en mode 100% électrique, et après, tu tombes sur un moteur à essence. Ça rentre dans la catégorie des véhicules partiellement électriques, disons.
D'accord. Comme exemple, Mitsubishi a un SUV qui est hybride comme ça, n'est-ce pas?
Exactement. Le Outlander PHEV, c'est le véhicule de cette nature-là, le VUS le plus vendu hybride au Canada et même au monde, je pense. Mais justement, il y a cette particularité-là, 45 km maximum quand tu l'as branché, ça fait le travail. Alors oui, ça fait partie des véhicules électriques, mais évidemment, c'est des véhicules qui sont partiellement électriques. Et d'ailleurs, quand les compagnies nous disent en 2021, toute notre gamme va être électrifiée, ils ont raison, mais il faut prendre en considération qu'il y en a beaucoup là-dedans que c'est comme ça. Donc, tu vas faire un 30 km électrique et tout le reste va marcher à gaz. Donc, ça ne veut pas dire que les moteurs à essence vont disparaître, même si Volvo nous dit que tous ces modèles vont être électrifiés en 2021, par exemple.
Très bien. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup, Marc. À la semaine prochaine.
Bye-bye, à la semaine prochaine.
Salut. Marc Bouchard, notre chroniqueur automobile. Bon, je vais prendre une courte pause, puis au retour, je vais aller rejoindre Caroline Scott à l'Hôtel de Ville. Mon Dieu que j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'attends ce bilan-là. Le bilan des mosaïques culturelles.